Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe de chercheurs vient de caractériser l'épaisseur de la glace et la structure du sous-sol d'Europe, la petite lune de Jupiter. Et ça grâce au radiomètre micro-ondes de la sonde Juno. Alors qu'on estimait auparavant que cette croûte de glace surplombant un océan liquide faisait entre 3 et 30 km, eh bien la valeur trouvée aujourd'hui est dans la fourchette haute, 29 plus ou moins 10 km. Mais il y aurait des fissures de plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Europe est aujourd'hui l'une des cibles prioritaires de l'astrobiologie dans le système solaire, du fait de l'existence avérée de son océan liquide salé et de sa relative proximité de la Terre. Ouais, Jupiter, c'est pas très loin. Les observations de la sonde Galileo avaient révélé de vastes zones de fragmentation de la glace, donc avec un terrain chaotique qui suggérait la présence de fissures, de failles, de pores ou de bulles sous la surface. Si elles persistent, ces fissures pourraient favoriser l'habitabilité en facilitant le transport de nutriments entre la surface et l'océan. Steven Levin, du JPL de la NASA, et ses collaborateurs ont étudié la surface et donc la subsurface d'Europe avec la sonde Juno qui orbite toujours avec panache la grande Jupiter en survolant de temps en temps ses satellites les plus intéressants comme Io, Ganymède ou Europe. La sonde Juno est en orbite polaire autour de Jupiter depuis 2016, stabilisée par rotation sur elle-même à une vitesse de 2 tours par minute, ce qui lui donne une certaine élégance. Le 29 septembre 2022, elle a survolé Europe à une altitude de 360 km seulement. Alors, on l'a dit, Europe c'est une cible prioritaire pour les planétologues, mais ça depuis plus de 40 ans déjà. Avec un intérêt pour sa potentielle habitabilité qui s'est considérablement accrue lorsque les mesures de la sonde Galileo ont révélé la présence d'un océan d'eau salée et conductrice sous la croûte de glace, ainsi que des fractures dans la glace de surface. Lors du survol d'Europe par Juno, son radiomètre à micro-ondes, qu'on appelle le MWR, qui a été conçu initialement pour observer l'atmosphère profonde de Jupiter, a fourni des mesures spatialement résolues, des températures de brillance, et ça à différentes profondeurs de la croûte de glace d'Europe. MWR, c'est un ensemble de 6 radiomètres qui fonctionnent à 0,6 GHz, 1,2 GHz, 2,6 GHz, 5,2, 10 et 22 GHz. Lors du survol d'Europe, MWR a permis donc de cartographier les émissions thermiques émanant de la croûte de glace à des profondeurs allant de quelques mètres avec le radiomètre à 22 GHz et jusqu'à plusieurs kilomètres avec celui à 0,6 GHz. Ces observations de la température de la glace en fonction de la profondeur mettent en évidence une diffusion dépendant de la fréquence au sein de la glace et elles contraignent ainsi l'épaisseur de la croûte de glace ainsi que la taille et la profondeur des sources de réflexion qui sont observées. L'ensemble de données comprend 129 mesures dans chacun des 6 canaux de MWR obtenus à partir de 4 rotations consécutives de la sonde. Les 6 cartes de MWR obtenues couvrent les latitudes comprises entre 10 degrés sud à 30 degrés nord et les longitudes de 60 degrés ouest à 40 degrés est. MWR a mesuré la température avec une précision absolue supérieure à 2%. Les observations infrarouges indiquent par ailleurs que la région qui est observée à la surface d'Europe présente des températures comprises entre 90 et 110 Kelvin, avec une variation diurne d'environ 20 Kelvin. Bien que la surface d'Europe soit principalement composée de glace d'eau, on y trouve des traces de sel et d'autres matériaux non glacés, peut-être des composés soufrés, de la glace de CO2, ou peut-être même des molécules organiques ou des matériaux rocheux. La morphologie de surface et les mesures du champ magnétique suggèrent la présence d'un océan souterrain. Avant Juno, les estimations de l'épaisseur de la calotte glaciaire étaient imprécises, oscillant entre 3 km seulement et 45 km environ. La présence d'un océan d'eau sous la calotte glaciaire impose une contrainte sur le gradient de température verticale. L'interface océan-glace doit être à environ 270 Kelvin. Une couche de glace convective pourrait exister entre l'océan et la croûte de glace conductrice. Les mesures de gradient de température verticale permettent donc d'estimer l'épaisseur de la partie conductrice de la croûte de glace, une éventuelle couche convective s'ajoutant à l'épaisseur totale. On suppose en outre qu'une couche de régolithe de glace d'une profondeur variant de quelques mètres à 1 km contient des fractures et des cavités pouvant atteindre 75 cm de diamètre. L'épaisseur de la croûte de glace et la nature du régolithe limitent les possibilités de communication, bien sûr, entre la surface et l'océan, influençant donc les théories sur l'habitabilité d'Europe. Alors, l'analyse de Levin et ses collaborateurs révèle la présence d'une couche de glace conductrice d'une épaisseur de 29 plus ou moins 10 km, en supposant une glace d'eau pure et l'absence de couche de glace convective. L'estimation de l'épaisseur de cette couche dépend crucialement du gradient thermique induit par les différences mesurées entre les canaux à 0,6 GHz et 1,2 GHz. Les impuretés présentes dans la glace, telles que les sels ou d'autres substances, augmenteraient l'opacité au micro-ondes, réduisant donc potentiellement la profondeur sondée par tous les canaux et par conséquent la différence de profondeur entre les canaux à 0,6 GHz et 1,2 GHz, avec un effet approximativement proportionnel sur l'estimation de l'épaisseur de la couche de glace. Afin de déterminer l'importance de ce phénomène, les chercheurs utilisent la théorie du milieu effectif pour estimer l'effet de la salinité sous forme d'inclusion, et alternativement, ils estiment l'effet du sel dissous dans le réseau cristallin de la glace en ajustant la partie imaginaire de la constante diélectrique pour tenir compte de la contribution du chlore à la conductivité. Une glace marine présentant une salinité d'environ 2,3 mg par kilo, comme suggéré par Blankenship et collaborateurs, n'a que très peu d'effet sur l'analyse de Levin et ses collègues. Par contre, une salinité de la calotte glaciaire de 15 mg par kilogramme, qui avait été estimée par Steinbrüge et ses collaborateurs, si elle était globale, réduirait la profondeur de sondage à 0,6 GHz d'environ 17%, ce qui fait environ 5 km. Et ça, c'est si les ions sont dissous dans le réseau cristallin de la glace. Et ça ferait environ 4% s'ils sont présents sous forme d'inclusion. Donc ces différences sont inférieures à l'incertitude qu'obtiennent Levin et ses collaborateurs. Il précise d'ailleurs que des niveaux de salinité plus élevés, ainsi qu'une dépendance de leur effet sur l'opacité à la température, pourraient avoir un impact plus important, bien que certains sels de sulfate hydraté aient peu d'effet sur l'atténuation des micro-ondes. Alors pour affecter les basses fréquences et diminuer l'estimation de l'épaisseur de la couche de glace conductrice, les impuretés devraient être suffisamment répandues pour impacter la majeure partie des données de MWR et suffisamment profondes pour modifier sensiblement la contribution du canal à 0,6 GHz. La modélisation présentée ici, qui suppose une glace pure, prédit une contribution de 50% au canal de 0,6 GHz à 14 km de profondeur. Les impuretés induisant une dépendance différente à la température de la glace modifieraient également la concordance entre les données et le modèle en changeant la pente modélisée. Alors bien sûr, une analyse plus poussée de cet effet pourrait permettre de mieux contraindre le degré d'impureté et par conséquent les propriétés de la couche de glace. En tout cas, l'estimation de l'épaisseur de la croûte de glace d'Europe se situe dans la partie supérieure des estimations publiées précédemment, mais elle reste physiquement plausible. Le flux de chaleur dans le modèle de Levin et ses collaborateurs, correspondant à une croûte conductrice de 19 à 39 km d'épaisseur, varie de 15 milliwatts par mètre carré à 35 milliwatts par mètre carré. Ce flux de chaleur est supérieur à celui qui est attendu pour une contribution radiogénique chondritique seule, qui vaut environ 10 milliwatts par mètre carré. Et il est cohérent avec les estimations prenant en compte le chauffage par effet de marée dans la croûte de glace d'Europe. Les modèles de dissipation des marées prévoient également des variations importantes de l'épaisseur de la croûte de glace en fonction de la latitude et de la longitude. Des variations que le modèle de Levin et ses collaborateurs ne prend pas en compte. Mais aucune preuve topographique isostatique n'a confirmé à ce jour cette variation d'épaisseur prédite, et il a été avancé que le transport de chaleur océanique pourrait quasiment éliminer ces variations d'épaisseur de la croûte d'Europe. Les planétologues constatent également que le régolithe présente une distribution de diffuseurs dont la densité diminue avec la puissance quatrième de la taille des pores et avec une hauteur d'échelle d'environ 220 mètres. Ils interprètent ces centres diffuseurs comme des pores dans la glace. P-O-R-E, hein, oui, pas P-O-R-T. Hein. Mais il n'exclut pas la possibilité qu'il s'agisse de fissures ou d'inclusions salines qui donneraient des résultats similaires. Si la glace est suffisamment impure pour être sensiblement plus opaque que la glace pure, alors la distribution verticale des diffuseurs doit être moins profonde. La variation latérale des diffuseurs s'étend sur au moins quelques mètres de profondeur mais n'est pas observé dans les canaux les plus profonds. Pour les chercheurs, en raison de leur faible fraction volumique, de leur faible profondeur par rapport à celle de l'océan et de leur petite taille, les pores, vides ou fractures qui ont été mis en évidence par ces résultats ne constitueraient probablement pas à eux seuls une voie d'apport de nutriments à l'océan, ni un moyen de communication entre l'océan et la surface. Alors, les données qui ont été exploitées ici n'excluent pas d'autres sources liées aux régions actives ou aux impacts sur Europe, ni d'ailleurs la possibilité que les pores les plus fins, indétectables par les fréquences de sondage les plus profondes de MWR, ne décroissent pas de façon exponentielle, mais se prolongent en profondeur. Pour conclure, les chercheurs rappellent que ces résultats se limitent aux terrains qui ont été observés et qu'une cartographie plus poussée de la surface d'Europe, par radiométrie ou radar, pourrait révéler des régions où la couche de glace est plus mince ou même plus épaisse, ou encore présenter des variations de régolithe non observées à ce jour. L'article de Stephen Levin et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 17 décembre 2025 et il porte le titre « L'épaisseur de la glace d'Europe et la structure de la subsurface caractérisée par le radiomètre micro-ondes de la sonde Juno ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, salut !